C'est maintenant le moment de la prédication. Alors pour aujourd'hui, le texte de prédication est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58 et versets 7 à 12. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira « Je suis là ». Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menace et les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère. Le Seigneur sera toujours ton guide, même en plein désert, il te donnera à manger et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Tu relèveras les vieux murs détruits, tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. Sœurs et frères, la Bible et ses situations nous paraissent parfois vraiment éloignées de notre quotidien. Est-ce que nous aurions nous aussi été contraints à l'exil comme les destinataires du prophète Ésaïe ? Certains d'entre nous, peut-être que oui. Mais la majorité, non, nous ne connaissons pas cette réalité. Et pourtant, en préparant cette prédication, une phrase a fait écho en moi à ce que j'avais lu dans de la littérature profane sur le Reiki. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je ne vois pas beaucoup de... Bon. C'est une pratique basée sur les énergies de l'être humain qui lie le corps et l'âme. Et c'est un roman qui racontait l'échange de lumière entre une jeune femme connectée à la Terre, à la conscience, qu'elle était un ensemble du tout qu'est le monde, un ensemble voulu et désiré dans son existence. Et justement, ce qui était intéressant, c'est qu'elle relativisait ses petites tracasseries du quotidien, car elle se savait aimée, connectée à la nature, en communion avec ce qui l'entourait. Alors, étrangement aussi dans le texte, elle se ressourçait grâce à l'eau et à l'énergie des arbres. C'est ce qu'on appelle aussi la sylvothérapie actuellement. Et face à elle, presque de manière caricaturale, un jeune homme était perdu dans la dépression qu'il tentait de régler, qu'il ne réglait pas du tout avec l'alcool et la drogue, et sur le point de faire une tentative de suicide. Justement parce qu'il était rongé par la culpabilité et par le manque de pardon. Et tout au long du livre, en fait, cette jeune femme, elle lui donne son énergie de lumière pour faire reculer ses ténèbres. Et elle essaie de l'ouvrir à une démarche de pardon, de le libérer de sa culpabilité mal placée. Et pourquoi je fais le lien entre ce roman et notre passage ? Parce que le pardon, la libération de nos servitudes, notre place dans la création de Dieu, ou l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous, comme on vient de le redire ce matin à Logan, c'est ce qui nous fait grandir. C'est cette lumière qui se donne à l'autre et qui gagne aussi contre l'obscurité qui traverse sans cesse le passage biblique. Et pourtant, nos églises relativement se vident, et par contre les cours de Reiki, de Qigong, de sophrologie, de yoga, de coach en développement personnel, eux, augmentent, sans trop de soucis. Ce qui me fait dire que le monde a besoin de spirituel, mais qu'on le cherche souvent hors de nos églises. Beaucoup veulent être aussi actifs dans cette recherche, veulent inclure le corps dans cette recherche de lumière, de pardon, de libération. Et nos églises, parfois, discourent sans cesse, avec certes beaucoup d'intelligence, et parfois aussi provoquent un peu d'ennui, peut-être. Peut-être parce que nos églises, nos institutions, se sont certaines éloignées de la prédication de Jésus, et je m'inclus quelque part dans ce reproche aussi. Jésus parlait finalement assez peu, si nous relisons les évangiles. Oui, il a fait quelques enseignements, mais surtout, il n'a cessé de guérir aussi dans leur corps ceux qui venaient au-devant de lui. Et il nous a laissé justement un geste physique pour nous souvenir de lui qui est la Sainte Seine. Il n'a cessé de marcher de rencontrer, ainsi que les apôtres par la suite dans leur activité missionnaire. Ils allaient au-devant des populations pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils n'attendaient pas les gens dans les synagogues. Mais nos institutions, depuis plus de 2000 ans, nous ont fait entrer dans des habitudes, dans la gestion des bâtiments aussi, nous ont sclérosés dans ce qui fait notre identité de protestants et peut-être pas dans celle de chrétiens. Bien sûr que cette tentation du repli sur soi, elle était déjà présente avec le peuple hébreu. Dans notre passage, déjà, que je vous ai lu dans le livre du prophète Ésaïe, ils avaient aussi déjà mal compris le but du jeûne. En fait, ils faisaient un jeûne pour obtenir les faveurs de Dieu, et à côté, ils n'hésitaient pas sans trop de soucis à mépriser leur prochain dans le même mouvement. Or, le prophète le rappelle, « Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Et au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. » Et l'évangile que nous avons entendu et l'épître nous disent finalement la même chose. « Donnez et vous recevrez. Donnez et cela produira de l'abondance, du surplus autour de vous. Donnez beaucoup et vous recevrez beaucoup. Donnez avec joie, quel que soit ce que vous donnez, du temps, de l'argent, mais finalement, donnez. » C'est un peu le leitmotiv de tous les passages bibliques aujourd'hui. Et si on y regarde bien, donner est finalement quelque part un peu égoïste, parce que les passages bibliques insistent sur le fait que, parce que l'on donne, la lumière nous atteindra. Mais cette lumière, elle n'est pas justement à garder pour soi. Elle rayonnera aussi autour de nous, comme le fait cette jeune femme dans le roman. Mais nous, chrétiens, est-ce que justement nous savons être encore le sel de la terre et la lumière du monde ? Est-ce que nous savons que la parole de Dieu, elle entretient cette lumière en nous ? Est-ce que nous savons que nous sommes invités à vivre nos relations humaines le plus possible dans la lumière, dans la bienveillance, dans la compassion, dans le don, et non dans la méfiance et la protection ? Finalement, la question à se poser, c'est pourquoi avons-nous oublié d'être porteurs de lumière au point de voir nos églises se vider sans réagir autrement que par la conservation des acquis et aussi parfois les reproches. Nous aussi, nous sommes porteurs de lumière, celle que l'amour de Dieu produit en nous. Et on peut se rappeler donc du baptême, lors du baptême de Jésus, en même temps que retentit la parole du Père. Il y a aussi cette parole, donc « Tu es mon Fils bien-aimé », et une colombe descend sur Jésus. Je regarde Logan parce que c'est aussi ce qu'on lui a dit finalement aujourd'hui. Tu es le Fils bien-aimé de Dieu et l'Esprit Saint va être avec toi tout au long de ta vie. Lors de notre baptême, chacune, chacun, que ce soit catholique ou protestant, nous avons été dépositaires de ce cadeau, de l'amour de Dieu qui fonde notre vie. Ce n'est pas qu'un rituel d'entrée dans l'Église, mais une vérité sur laquelle on fonde notre existence. Alors, pour recharger notre lumière de chrétien, vous n'êtes pas obligé de faire un câlin à un arbre, comme cette jeune femme dans le roman. Mais on peut aussi, nous, se ressourcer dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans un groupe de prière ou de partage, dans un groupe de louanges, dans la contemplation de la création de Dieu, de l'univers qu'il a créé, mais aussi dans le don pour tous ceux qui ont besoin de quelque chose que nous pouvons leur apporter. Parce que nous aussi, nous faisons partie d'un tout, la création de Dieu, et nous avons notre place dans ce tout. Parce que finalement, si vous y regardez bien, ce que les nouvelles spiritualités proposent autour de nous, que ce soit le Reiki, la méditation ou autre, finalement c'est un peu aussi du silence dans le bruit ambiant de nos sociétés. On a le bruit, alors la radio c'est peut-être déjà un peu dépassé, la télé quasiment aussi, mais les téléphones, les tablettes, les enceintes, préféré. On a toujours finalement du bruit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même au supermarché, il y a toujours de la musique en supermarché. Enfin, quasiment. Les seules fois où c'est un peu baissé, c'est pour les personnes qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme. Et donc, je crois, à Carrefour, le jeudi, on baisse un peu la musique, justement, pour ça. Donc, on fait un effort de baisser le bruit et la musique pour des personnes qui ont un handicap. Mais en fait, on vit dans un bruit constant. Et certains trouvent que le protestantisme manque de mystique, que nos cultes peut-être sont monotones, mais parce que quelque part ils sont loin du bruit ambiant de nos sociétés, parce que le silence il fait aussi partie de notre relation à Dieu. Et alors si vous êtes déjà venu à une séance de Godlyplay que nous utilisons dans la paroisse, une manière de pédagogique de parler aux enfants. L'un des principaux principes de ce Godlyplay, c'est de justement de faire revenir le silence dans la vie de nos enfants. Parce que ce silence, il fait partie, il est un espace de réflexion, de méditation, et que apprendre la place du silence aux enfants, ça leur rappelle qu'il n'y a pas besoin d'un bruit de fond pour ne pas se sentir seul, ou d'une télé allumée. Dans le silence, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls et que Dieu se donne aussi dans ce silence. À l'heure des retraites spécialisées dans le jeûne, c'est-à-dire dans le refus de faire entrer de la nourriture en soi pour se purifier, le prophète Ésaïe, qu'on a entendu, lui, nous propose d'aller à la rencontre de ceux autour de nous pour donner, pour faire un lien avec l'autre, au lieu de seulement se recentrer sur soi et d'apprendre à mieux se connaître. Et la Bible, c'est justement une invitation à aller vers notre prochain. C'est justement aussi ce qu'on va faire avec tous ces dons que vous avez amenés et qui vont être ensuite déposés grâce à Bernard, qui est là, au Resto du Cœur. Tous ces dons, on les donne pour d'autres autour de nous. Et je vous invite juste, pour conclure, à rester sur ce dernier verset du prophète Ésaïe, au verset 12. « Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Et on te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et qui donne vie aux ruelles de la ville. » Ésaïe, il parlait dans notre texte à ceux qui sont rentrés à Jérusalem. Et là, nous sommes juste après l'exil et le peuple est appelé à se réunifier après des années d'exil. Certains sont partis et revenus, d'autres sont restés et il y a aussi des étrangers qui se sont installés dans le pays. Le temple, qui était le centre de la pratique religieuse, a été détruit. Les repères se sont perdus. Alors certains ont jeûné pour se rapprocher de Dieu. Mais jeûner ne les a pas empêchés de maltraiter leurs voisins, de se disputer, de faire une bonne affaire. Or, le jeûne a pour but de se rapprocher de la volonté de Dieu, d'aider les autres. Jeûner, pour dire, de l'avoir fait a peu de sens aux yeux de Dieu. Par contre, dans notre passage, le prophète invite le peuple à être attentif aux besoins concrets de ceux qui les entourent. Le jeûne, il apporte une libération, tout comme la bonne nouvelle de Dieu, son pardon en Jésus-Christ. Le prophète, finalement, aujourd'hui, nous rappelle les trois libérations permises par ce jeûne. Se défaire de ses penchants mauvais, ne plus être asservi à des idoles et libérer d'autres personnes autour de nous. Être dans ce jeûne permet justement de reconstruire sur de l'ancien parce qu'on le fait d'une partie de nous qui est plus apaisée. Le prophète ne nous demande pas de faire table rase du passé, mais justement d'aller sur ce chemin du pardon et de l'acceptation que Logan commence aujourd'hui par son baptême. Jésus nous ouvre une porte. Tel que nous sommes, il y a quelque part quelqu'un qui nous aime si fort que cela nous rend beaux, forts et sages, même sans résultat tangible. Jésus et Dieu nous aiment si fort que c'est le monde qui est révoqué et que c'est nous qui sommes justifiés. Comme ça, sans aucune autre raison, il n'y a pas un besoin de faire une bonne action. Il nous invite à vivre avec ce Dieu faible et fou, parfois faible comme nous, mais aussi fou de chaque être humain sur terre. Et il nous invite justement à vivre avec et à rayonner de lumière. C'est ce que je vous invite à vivre en ce temps des récoltes qui nous rappelle la reconnaissance que nous pouvons avoir envers Dieu.